Coupant par un sentier de terre, ils rejoignirent Ouville-l'Abbaye pour remonter jusqu'à Doudeville. Paloma découvrait à chaque croisement, derrière les talus plantés, une succession de chaumières, de manoirs, de vergers. Une campagne d'une incroyable variété, magnifiée par le soleil de juillet. Arrivé à Doudeville, Bergton ne s'arrêta pas. Il précisa simplement à Paloma, profitant d'un croisement. « Doudeville, la capitale du lin. Les complices de Lupin dans le roman 813 se nomment les frères Doudeville. Mais surtout, après que Joséphine et Arsène se soient enfuis du château de Guer, Joséphine veut déposer Arsène à la gare de Doudeville. Et bien entendu, le jeune Lupin, déjà amoureux de la vénéneuse comtesse, refuse. Ouais, elle lui cède. Ils foncent ensemble vers Yvetot. Nous aussi. » Ils repartirent. Bergton se plaça à la hauteur de Paloma. « Quelque part entre Doudeville et Yvetot, » cria-t-il pour couvrir le bruit des motos, « les deux fuyards s'arrêtent dans une ferme pour manger. Mais ils se retrouvent piégés par les gendarmes qui encerclent le bâtiment. Alors le Lupin de 20 ans enfilera un déguisement qu'il ne prendra plus jamais par la suite. Lequel ? Il se déguise en femme, en comtesse de Cagliostro. Il attire derrière lui les gendarmes à l'écart de la ferme, se débarrasse discrètement de son déguisement et retourne ensuite rejoindre Joséphine dans sa diligence. « Lupin déguisé en femme ? Vous allez casser un mythe ? Il n'avait que 20 ans !»
Ils continuèrent sans parler. Leur silence, comme les paysages du Caux, rappelèrent à Bergton les mots mêmes de Leblanc. Ils n'échangèrent plus une seule parole, les chevaux continuaient à trotter à un même rythme égal. Les grandes plaines de Caux, toujours semblables et toujours diverses, déroulaient de vastes horizons plantés de fermes et de bosquets. Comme Joséphine et Arsène, Roland et Paloma traversèrent Yvetot sans s'arrêter. Quelques kilomètres plus loin, après avoir passé le hameau de Louvetot, dont un hôtel marquait toujours l'étape, ils descendirent vers la forêt du Trait. D'autres mots de Leblanc revinrent à la mémoire de Roland. Au haut de la côte qui descend à Caudebec, ils tournèrent à gauche parmi les collines boisées qui dominent la vallée de Saint-Vandrille. Ils longèrent les ruines de la célèbre abbaye, suivirent le cours d'eau qui la baigne, parvinrent en vue du fleuve. Il s'arrêta le long de la petite rivière, le Rançon, d'où on jouissait d'une belle vue sur l'abbaye de Saint-Vandrille.
« Ça ne vous dérange pas que je vous parle un peu de Leblanc et pas de Lupin ?»«
Allez-y, »
fit semblant de soupirer Paloma.
« Cette abbaye tient une place importante dans son cœur, même si elle ne figure pas directement dans son œuvre lupinienne.
La sœur de Maurice Leblanc, Georgette, quittera Gruchet en 1907 pour louer avec son compagnon, le poète belge Maeterlinck, l'abbaye de Saint-Vandrille, tout juste désertée par les moines. On les appelait à l'époque les amants lumineux.
« Les amants lumineux, »
répéta Paloma, impressionnée par le charme de l'abbaye dans la vallée verdoyante. Ils continuèrent de descendre la petite vallée. Quelques mètres avant de franchir l'élégant pont de Bretonne, ils obliquèrent à gauche vers Caudebec-en-Caux pour passer sous le pont et longer la Seine. Bergton désigna le vaste méandre du fleuve à Paloma.
« C'est ici que prend fin la cavale de Joséphine et son jeune prétendant. » Elle veut le déposer au bac de la Meilleraie. Une nouvelle fois, il refuse. Il se promène dans les roseaux en bord de Seine. Il lui avoue son amour. Il la surnomme sa Josine.
« Comme c'est charmant, »
ironisa Paloma. « Et bien entendu, elle cède. »
« Bien entendu. » Ils partent en lune de miel à bord de la péniche de la comtesse la Nonchalante. Ils remontent la Seine vers Paris. Toute l'histoire du fleuve se déroulait ainsi en paysages charmants où ils allaient se promener en se tenant par la taille. La forêt de Bretonne, les ruines de Jumièges, l'abbaye de Saint-Georges, les collines de la Bouille, Rouen, Pont de l'Arche.
Cela fait envie, ironisa à nouveau Paloma.
Une lune de miel jusqu'à Paris. Mais dans la capitale, leur histoire de cœur va commencer à battre de l'aile. Arsène supporte mal que sa Josine soit une criminelle.
Bergton jeta un coup d'œil vers sa montre. 17h30.
Cela vous dit de faire une pause ?
Demanda-t-il soudain.
Je n'osais pas vous le proposer.
répondit Paloma, visiblement fatiguée elle aussi du parcours à moto. Ils s'installèrent à une terrasse ensoleillée sur les quais de Caudebec-en-Caux, profitant de la vue magnifique sur le grand méandre de la Seine. Ils commandèrent deux cafés. Bergton observait Paloma.
« Pourquoi diable lisez-vous cette carte à l'envers ?»
Paloma leva les yeux. Elle semblait perdue dans ses pensées. « Tout à l'heure, à Thibermesnil, j'ai eu une sorte de flash. J'essaie de me souvenir. »«
Je peux vous aider ?»«
Je ne crois pas. » Il se renfrogna un peu et laissa glisser son regard vers l'horizon.
Maurice Leblanc a également évoqué la forêt de Bretonne dans les aventures de Lupin. La grande forêt que l'on voit juste en face de la Seine. Elle occupe tout le méandre mort de la Seine. C'est une...
C'est ça !
Hurla Paloma en sursautant sur sa chaise. La moitié de sa tasse de café se renversa sur la table, épargnant heureusement la carte routière.
Quoi ? Répliqua le professeur interloqué.
J'ai trouvé ! Le flash ! Ça m'est revenu, grâce à vous, professeur, grâce au méandre mort.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est trop incroyable pour être une coïncidence.
Allez-vous vous expliquer à la fin ?
Paloma, surexcitée, n'écoutait pas le professeur.
Donnez-moi une feuille de papier, très fine, si possible transparente, et un marqueur épais.
Bergton, intrigué, fouilla rapidement dans son sac et lui transmit le matériel. Devant ses yeux ébahis, Paloma surligna au feutre les méandres de la Seine, d'Elbeuf jusqu'au Havre.
« Et alors ?»
demanda Bergton sans comprendre.
« Que manque-t-il sur cette carte, professeur ?»«
Je ne sais pas. Rien. »
Paloma empoigna la manche de la chemise de Bergton.
« Mais si, vous venez de me le dire. Ce qui manque sur cette carte, bien entendu, ce sont les méandres morts de la Seine. » Maurice Leblanc le savait, le véritable lit de la Seine, ce n'est pas celui que l'on voit aujourd'hui. Le cours actuel de la Seine n'a que quelques siècles. Pour connaître le véritable cours de la Seine, celui qu'elle a suivi pendant des milliers, des millions d'années, il faut ajouter les méandres morts. Les reliefs correspondent à ce tracé millénaire, pas au tracé actuel. Il suffit de regarder la carte. Les églises et les châteaux, tous ceux que Leblanc a décrits, suivent ces reliefs millénaires. Pas le cours actuel de la Seine.
Roland Bergton se demandait toujours où elle voulait en venir. Des gouttes de café coulaient de la table près des jambes nues de Paloma. Mais Bergton n'osa pas l'interrompre. Très agité, Paloma posa son marqueur sur la feuille.
Regardez la carte, professeur. Du nord vers le sud, regardez. Le méandre de Rouen-Elbeuf forme un A. Celui de Moulineaux, un R. Surtout si on prend en compte le tracé ancien de la Seine, jusqu'à Quevillon et Saint-Martin de Bocherville. Celui de Jumièges, un S.
Roland Bergton, incrédule, commençait à comprendre l'incroyable évidence que Paloma venait de mettre à jour. Elle continua.
Le méandre de Caudebec-en-Caux, où nous sommes, ne forme rien. Mais auparavant, le méandre de la Seine passait bien plus au sud, jusqu'à la haie de Routot. Formant quasiment une boucle.
C'est le principe du méandre mort, glissa Bergton. Les méandres forment des boucles qui tendent à se resserrer au fil des millénaires. Lorsque la boucle se referme, le fleuve suit le chemin le plus court, et la partie abandonnée du fleuve meurt. Il reste la forme de la vallée, le relief, mais plus d'eau au fond.
Donc,
continua Paloma sans se soucier des explications du professeur, la boucle de Caudebec-en-Caux peut correspondre à la boucle d'un E. Le méandre de Vieux-Port forme clairement un second N. Il n'y a plus d'autres méandres jusqu'à l'estuaire. Mais tout le monde sait que le fameux marais Vernier dans l'estuaire correspond lui aussi à un méandre mort, une dépression circulaire parfaite, un paysage sublime, une seconde boucle qui forme un second E.
Nom de Dieu!
Parvint simplement à articuler Bergton. Paloma continua, triomphante. Les occupants de quelques tables voisines se tournèrent vers elle, intrigués.
C'est une évidence, professeur. De Rouen à la Seine, les six fameux méandres du grand fleuve forment six lettres. Et ces six lettres sont A, R, S, E, N, E, ce Val de Seine. Cet espace tant arpenté en vélo par Maurice Leblanc.
Elle montra la feuille de papier sur laquelle elle avait dessiné les méandres au marqueur bleu. On y lisait distinctement « Arsène ».«
Fascinant !» fit Bergton.
Il regarda le soleil éclairer le front doré de Paloma. Il murmura presque pour lui-même
« Fascinante !»«
D'accord !»
continua Paloma en se calmant.
« Tout ceci reste très subjectif. On peut peut-être lire d'autres lettres dans ces méandres. Quoique... Mais rien ne prouve non plus que ces méandres n'aient pas inspiré le prénom de son héros à Leblanc. »
Bergton s'épongeait le front, un peu dépassé par les événements. Paloma but sa tasse de café sans même s'apercevoir qu'il en manquait la moitié.
« Ceci dit, continua Paloma, ceci ne nous avance guère. Lire Arsène dans les méandres de la Seine, d'accord, c'est plutôt étonnant, mais après, on va où avec cette découverte ?»
Elle posa sa tasse et continua. Bergton la regardait, toujours fasciné.
La seule avancée, c'est de faire l'hypothèse suivante. Si Arsène peut se lire en regardant une carte du nord au sud, de l'Angleterre vers la France, c'est sans aucun doute que Lupin peut se lire également quelque part sur cette même carte. Trouvons où, et nous aurons avancé.
Bergton vida à son tour son café d'un trait, désireux de reprendre l'ascendant sur l'enquête.
Pas de temps à perdre alors.
Il se leva. Paloma s'apprêta à enfiler son casque.
« Pas la peine, »
fit Bergton.
« On continue à pied. »«
À pied ?»«
Oui, à pied, on ne va pas loin. »«
Et les motos ?»«
Nils viendra les chercher, il est au courant. »
Surprise, Paloma ne posa pas davantage de questions. Elle était encore un peu perdue dans ses pensées. Elle longea avec Bergton les quais de Seine ombragés de Côte-Bec en Caux pendant quelques centaines de mètres. Les drapeaux sur le quai, les promeneurs, les voiles sur la Seine baignaient la ville dans une joyeuse ambiance balnéaire. Lorsqu'ils sortirent de la ville, Bergton désigna à Paloma un panneau qui indiquait la direction de la chapelle de la Bariva.
« La Bariva ?»
demanda Paloma.
« C'est une aventure de Lupin, non ?»«
Tout à fait, » confirma Bergton. « Et la chapelle de la Bariva est l'un des lieux les plus étonnants du bord de Seine. » Une incroyable petite chapelle aux murs couverts d'ex-voto de marins. Des prières de reconnaissance à la Vierge, ainsi que des maquettes de bateaux suspendues au plafond de la chapelle. Elles aussi réalisées par des marins pour remercier Marie d'avoir survécu à une tempête.
Formidable, c'est loin ?
Tout près, juste au-dessus.
Paloma s'apprêtait à traverser la route. Bergton doucha son enthousiasme.
Mais on n'a pas le temps de s'arrêter. Je vous parlerai de la Bariva plus tard, lors de notre ultime étape à Tancarville.
Tancarville ?
Tancarville, l'estuaire de la Seine.
Bergton pénétra dans la cour d'un bâtiment moderne et vitré à la sortie de Côte-Bec-en-Caux qui donnait directement sur la Seine. À côté d'une hélice géante décorant le jardin du bâtiment, Paloma eut le temps de lire « Pilotage de la Seine ». Elle comprit.
« Vous êtes incroyable, on va reprendre le bateau ?»«
Bien entendu, il faut suivre les pas de Lupin, vous le savez bien. » Lupin a parcouru la Seine sur sa péniche, la Nonchalante. Mais rassurez-vous, nous irons beaucoup plus vite que lui. »
Un homme cravaté de belle prestance sortit des bureaux du bâtiment. Il salua chaleureusement Bergton et admirativement Paloma. Il confia des clés et une pochette de documents à Bergton.
« Les clés, les papiers, l'assurance, pas de problème, Roland. On n'est pas débordé en ce moment. Tu nous laisses la pilotine où on a dit, on viendra la chercher demain. » Faut que tu passes nous voir autrement qu'en coup de vent, un de ces quatre. »
Bergton et Paloma avancèrent sur un ponton face à la Seine et Paloma découvrit un petit bateau à moteur, très court, visiblement très puissant, d'une couleur orange qui lui rappela les véhicules de la DDE. Elle remarqua que la vedette était baptisée la Bariva. Ils sautèrent dans le bateau. Sur le quai, le type cravaté lança un clin d'œil complice à Bergton qui déplut à Paloma. Une fois sur la Seine, Paloma explosa.
Ça vous amuse toutes ces petites surprises ? Vous pourriez me demander mon avis, et ça veut dire quoi ce clin d'œil ?
Le professeur répondit sans se démonter.
Sans doute qu'il vous trouve jolie et qu'il pense que j'ai bien de la chance.
Paloma suffoqua.
Et vous amenez souvent des étudiantes sur la Seine ?
Vous êtes la première.
Paloma se sentit flattée, mais se força à ne pas faire retomber sa colère.
« Et c'est quoi ce bateau ? Il y a à peine de la place pour deux là-dedans. On dirait un bateau Playmobil. »
Bergton éclata de rire.
« Bien trouvé, belle passagère. C'est vrai qu'il ressemble à un jouet, mais ne vous y fiez pas. Cette vedette est d'une redoutable puissance. C'est le tout dernier cri des pilotines de la Seine. »
« Des pilotines? Et à quoi ils s'amusent, les pilotes de Seine? Ils surveillent quoi ?»«
Ils ne surveillent rien, ils pilotent. »
« Sachez, belle Paloma, que la remontée de la Seine vers le port de Rouen, le quatrième de France tout de même, est très longue et surtout très dangereuse. La Seine n'est pas un fleuve très profond, il faut connaître les marées, les courants, les tirants d'eau. Bref, il faut connaître la Seine. Donc, lorsqu'un navire passe l'estuaire de la Seine pour remonter sur Rouen, le pilote habituel du bateau cède sa place à un pilote de Seine. En réalité, comme la descente ou la remontée de la Seine est particulièrement longue, environ 125 km, ce n'est pas un, mais deux pilotes de Seine qui se relaient. Chacun fait la moitié du trajet, du Havre à Caudebec-en-Caux ou de Caudebec-en-Caux à Rouen. Donc, logiquement, le quartier général des pilotes de Seine est ici, à Caudebec-en-Caux. Et depuis des siècles, ils naviguent sur des embarcations connues sous le nom de pilotines. À rame d'abord, à voile ensuite. Et depuis 15 ans, sur ces petits bateaux Playmobil. Comment les connaissez-vous? Vous avez été pilote de Seine dans une autre vie?
Bergton éclata de rire.
J'étais expert lors de la création du musée de la marine de la Seine, à Caudebec-en-Caux, presque en face de leur QG. Un beau musée sur l'histoire de la navigation fluviale. Désolé, on n'a pas eu le temps de s'y arrêter. Donc, de fait, je les connais tous très bien. On s'apprécie beaucoup. Il faut un métier assez fascinant.
Le bateau orange repassa devant les quais de Caudebec-en-Caux. « Je croyais qu'on allait à Tancarville !» s'écria la jeune femme.
« Après !» Tancarville, c'est le bout de la route. Il nous faut auparavant visiter le cœur même du mystère de Maurice Leblanc. La vallée de la Seine entre Caudebec et Jumièges.